Il est 8h52 minutes en France. La Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des traitements visant à maintenir en vie un homme qui est tétraplégique depuis 2008 à la suite d'un accident de voiture. Il est donc considéré en état végétatif par la médecine. Les traitements avaient été interrompus quelques heures plus tôt hier, mais l'affaire Vincent Lambert est devenue le symbole du débat sur les soins de fin de vie en France. D'un côté, sa conjointe dénonce l'acharnement thérapeutique. Elle demande la fin des traitements. Et de l'autre, ses parents, qui sont proches des milieux catholiques traditionnalistes, refusent la fin des traitements. Au bout du fil, Maître Jean Payot est avocat des parents de Vincent Lambert. Bonjour, Maître Payot.
Bonjour, monsieur.
Alors, donc, racontez-nous, comment avez-vous obtenu, sous quel argument avez-vous obtenu hier qu'on reprenne les traitements de monsieur Lambert alors qu'ils avaient été arrêtés quelques heures plus tôt?
Il faut savoir d'abord que la justice française a validé l'arrêt des traitements de monsieur Lambert à la fin du mois d'avril 2019.
Ouais.
Nous avons saisi immédiatement un comité de l'ONU qui s'appelle le Comité international pour les droits des personnes handicapées, en faisant valoir que la législation et la jurisprudence française avaient pour conséquence une discrimination à l'égard des personnes handicapées. En effet, il suffit pour la jurisprudence française qu'une personne soit handicapée et qu'elle ait indiqué avant la survenue de son handicap qu'elle ne voulait pas vivre dans cet état pour que l'on puisse, le cas échéant, cesser un traitement d'alimentation et d'hydratation entérale.
Ouais.
Et nous nous disons, à partir du moment où une personne n'est pas malade, d'une personne handicapée, à partir du moment où cette personne handicapée n'est pas malade, ni en fin de vie, il n'y a aucune légitimité à arrêter son traitement, en faisant croire qu'elle pourrait être malade ou en fin de vie.
Okay, mais,
C'est une discrimination à l'égard des personnes handicapées.
Ok, mais vous
alors,
dites que
le
même
comité
si...
de l'ONU,
oui.
Le comité de l'ONU a ordonné des mesures provisoires, en disant... on a besoin d'étudier ce dossier, il a l'air intéressant, nous ordonnons des mesures provisoires qui consisteront à maintenir l'alimentation et l'hydratation. Et pour une raison assez surprenante, le gouvernement français a refusé de reconnaître à ces mesures provisoires un caractère obligatoire et a annoncé publiquement qu'elle n'appliquerait pas ces mesures provisoires.
Bon.
Eh bien, nous avons obtenu hier soir de la Cour de Paris le fait que le gouvernement français soit obligé d'appliquer ces mesures provisoires.
Bon, vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant. Si, parce que il n'y a pas de document qui démontre que M. Lambert, Vincent Lambert, la personne qui est concernée dans ce cas-ci, avait démontré, en fait, il n'y a pas de document signé de sa main qui dit que dans un cas comme celui-là, il aurait voulu la fin d'un traitement. Sauf que son épouse, elle, dit qu'il lui a dit de vive voix. Et ça, c'est pas suffisant?
Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle en France des directives anticipées, hein, un document par lequel une personne indique à l'avance ce qu'elle souhaite faire. Mais en réalité, si on vous interrogeait, vous, qui êtes probablement bien portant, enfin, je ne sais pas, on interroge une personne bien portante, si on interroge 100 personnes bien portantes ou 1000 personnes bien portantes, toutes diront « Je ne veux pas être handicapé ». Par conséquent, l'expression de la volonté d'une personne, elle est intéressante une fois que le handicap est arrivé, parce que l'on sait à ce moment-là ce qui se passe. Lorsque l'on évoque la volonté d'une personne avant la survenue du handicap, naturellement la personne, elle évoque la question de manière extrêmement théorique, et sa volonté, elle est en réalité très faible. Par ailleurs, dans le cas particulier qui nous occupe, il se trouve que l'épouse nous a donné 6 versions différentes des volontés de M. Lambert, qui pour les unes était de ne pas vivre dans cet état, qui pour les autres était d'être euthanasié, qui pour les troisièmes était d'être piqué, qui pour les quatrièmes était de ne pas subir ce traitement d'alimentation et d'hydratation. En réalité, on était dans une interprétation de la volonté de Vincent Lambert par son épouse, qui, au demeurant, est relativement légitime pour interpréter les volontés de son conjoint.
Ouais.
Sauf que le droit français n'oblige pas à faire la preuve d'une interprétation. bien faire la preuve de la volonté de la personne elle-même. Ouais.
Donc vous dites
c'est là où il y a naturellement une difficulté majeure.
Bien sûr, mais vous dites aussi que si même si Vincent Lambert avait signé de sa main une directive anticipée de ne pas faire d'acharnement thérapeutique dans le cas où il deviendrait handicapé, vous dites que puisque ça aurait été signé à un moment où il n'était pas handicapé, ça veut rien dire au fond devant le tribunal.
Oui, exactement. Je remets en cause la loi française sur ce point, et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi avec mon confrère Jérôme Triomphe ce comité de l'ONU pour faire valoir qu'ici pourrait y avoir précisément une discrimination à l'égard des personnes handicapées. Que le cas échéant, la personne handicapée ou la personne valide, au moment où elle devient malade, où elle se trouve en fin de vie, on puisse lui appliquer les directives anticipées qu'elle a signées, je n'y vois aucun inconvénient. Ces directives anticipées sont faites pour ça. Mais qu'on mette fin au traitement d'une personne pour la seule raison qu'elle est handicapée, ça, pour moi, c'est une discrimination.
Alors, est-ce qu'il y a simplement une différence philosophique entre vos deux points de vue, entre les gens que vous représentez, donc les parents de M. Lambert et l'épouse de M. Lambert, parce que il n'y a pas de raison pour Mme Lambert, l'épouse, de vouloir le décès de son mari en tant que tel. Il n'y a pas de raison pécuniaire ou autre que celle, justement, de sa conviction de l'acharnement thérapeutique, non?
Je ne pense pas en effet qu'il y ait d'autres raisons, même si en réalité je ne le sais pas. La problématique n'est pas réellement une problématique de conviction. En 2013, quand la première demande d'arrêt de traitement a été réalisée, on est en 2019 et ce dossier dure depuis 6 ans.
Ouais.
En 2013, quand la première demande d'arrêt de traitement a été posée, ce n'était pas en réalité par l'épouse, c'était par le médecin qui chapeautait le service où se trouvait M. Vincent Lambert. Et celui-ci, en voyant l'état d'épuisement de Mme Rachel Lambert, l'épouse, lui a dit « Vous êtes épuisé, Vincent Lambert ne pourra jamais améliorer son état, je vous propose un chemin de fin de vie. » C'est là que se trouve l'erreur initiale de ce dossier, parce que ce médecin n'avait pas à proposer un chemin de fin de vie. Ce médecin avait à proposer à Mme Lambert des solutions alternatives pour que celle-ci ne s'épuise pas dans l'accompagnement de son conjoint.
Je terminerai avec cette question, Maître Payot. Quel est le pronostic d'amélioration de l'état de santé de M. Lambert? Est-ce qu'il y a une seule chance que son état s'améliore?
Alors, nous contestons qu'il soit dans un état végétatif chronique. Les dernières expertises judiciaires qui ont été réalisées l'ont présenté effectivement comme en état végétatif chronique, mais ce sont des résultats qui sont arrivés à la suite d'évaluations qui ont été mal réalisées. Cela ne signifie pas que Vincent Lambert va demain retrouver toutes ses capacités intellectives. Mais si Vincent Lambert se trouvait dans un établissement spécialisé pour ce type de patients, avec lesquels des stimulations sont habituellement réalisées, celui-ci pourrait passer certainement dans un état possi-relationnel, voire un état de conscience minimale plus, ce qui était précisément l'état dans lequel il a été évalué en 2011, quand il a été placé pendant quelques semaines à Liège, en Belgique. Je suis persuadé qu'une bonne prise en soin de sa part permettrait une évolution favorable. Une évolution relativement faible, mais une évolution probablement raisonnable malgré tout.
Maître Payot, merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie à vous pour votre invitation.
Au revoir.
Bonne journée.
Maître Jean Payot est avocat des parents de Vincent Lambert. On se tourne maintenant vers Véronique Yvon, qui est la députée de Joliette, mais porte-parole également du troisième groupe d'opposition en matière de soins de fin de vie. On connaît Mme Yvon pour avoir été, entre autres, l'instigatrice des soins de fin de vie, la loi sur les soins de fin de vie qu'on connaît au Québec. Bonjour, Mme Yvon.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, j'imagine que c'est un dossier qui vous intéresse particulièrement, celui de Vincent Lambert, là.
Ah oui, c'est clair, et je pense que ça démontre aussi beaucoup de différences entre la situation en France et la situation au Québec. Et je dois vous dire que je trouve ça très triste de constater que l'état d'une personne fait l'objet de débats judiciaires depuis maintenant.
Une dizaine d'années, 11 ans en fait.
11 ans qu'il est dans cet état-là et 6 ans de débats judiciaires et de chicanes familiales devant les tribunaux.
Est-ce qu'un cas comme celui-là pourrait survenir au Québec?
Ben, ce serait très difficile parce que heureusement au Québec, nos lois sont beaucoup plus avancées. D'abord, le refus de traitement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là. C'est pas d'une aide médicale à mourir active qui n'est toujours pas permise en France, mais c'est un arrêt de traitement parce que M. Lambert, il est hydraté et alimenté artificiellement donc depuis 11 ans.
Ouais.
Ce qui veut dire que naturellement, il ne vivrait pas s'il ne recevait pas donc ces soins-là. Alors tout le débat tourne autour du fait d'arrêter ces traitements-là.
Mm-hmm.
Au Québec, c'est très clair depuis la réforme du Code civil qu'une personne peut le demander et qu'un proche au nom de la personne peut le demander. Ça veut dire qu'au Québec, depuis le début des années 90, c'est permis. Et ce qui aide aussi au Québec, c'est qu'il y a une hiérarchie dans l'ordre des personnes qui peuvent donner le consentement ou arrêter de donner le consentement des soins. Et au Québec, dans le Code civil, c'est le conjoint ou la conjointe qui a ce rôle-là. Donc, ça évite une situation comme celle qu'on voit en France où il y a une chicane familiale entre les parents et la conjointe de M. Lambert.
Bon, on a parlé tout à l'heure avec Maître Payot des fameuses directives anticipées. Un des points là-bas, c'est que, l'épouse de M. Lambert dit, moi, il me l'avait dit là avant d'avoir son accident, que s'il était dans une situation comme celle-là, il voulait pas d'acharnement thérapeutique. Alors que eux disent, oui, mais en même temps, s'il a dit ça, il n'était pas dans la situation, donc c'est difficile d'interpréter. Est-ce que ça existe chez nous, les directives anticipées? Est-ce qu'on devrait faire un document comme ça qui dise vraiment nos volontés dans le cas où on se retrouve dans une situation semblable?
Oui, ça existe et complètement. Si ce cas-là peut être un incitatif pour que plus de Québécois remplissent des directives médicales anticipées, ce sera un plus, même si la situation au Québec n'a aucune commune mesure avec celle en France. Parce qu'ici, le droit donc de pouvoir être respecté par rapport à ses volontés, il est clairement établi. Alors, quand j'entendais l'avocat dire « Ouais, mais vous savez, est-ce que la personne pouvait savoir exactement dans quel état elle serait quand elle a manifesté cette volonté-là? Hein, » parce que l'épouse de M. Lambert dit qu'il lui avait manifesté cette volonté de ne pas être maintenu artificiellement en vie. Donc, l'avocat remet complètement en cause, il admet lui-même le principe même de pouvoir à l'avance donner des directives anticipées en disant qu'une personne ne peut pas savoir à l'avance ce qu'elle voudrait si elle était dans cet état-là. Bien là, c'est complètement violer l'esprit de directive anticipée que de remettre ça en cause. Mais au Québec, précisément dans la loi sur les soins de fin de vie qu'on a adoptée, on prévoit les directives médicales anticipées. Les gens peuvent le faire en communiquant simplement avec la RAMQ, avec la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il y a un formulaire qui va être envoyé à la personne. Elle va pouvoir remplir exactement ce type de situation-là qu'elle ne voudrait pas, par exemple, être branchée sur un respirateur, être alimentée artificiellement. C'est toutes des choses qui se prévoient. C'est très simple. Et ces directives-là sont inscrites dans un registre. Et maintenant, les médecins ont l'obligation de consulter le registre si, par exemple, vous arrivez à l'urgence, à l'hôpital et que vous n'êtes pas en mesure de donner votre consentement et qu'il n'y a pas de proche avec vous. Donc, cette obligation-là incombe maintenant au corps médical.
Bon, est-ce que ça a, davantage de poids que l'opinion du conjoint? Mettons là que j'ai rempli ça, j'ai un accident, puis après ça, ma conjointe dit, moi, je veux pas qu'on arrête les traitements.
C'est les directives médicales anticipées qui priment. Donc, c'est l'expression de votre volonté et c'est prévu noir sur blanc.
Ouais.
À partir du moment où elles sont remplies, c'est comme si c'était votre consentement ou votre refus de consentement en temps réel. Donc, l'équipe médicale doit s'y conformer.
Okay.
C'est très clair dans la loi. Justement, pour éviter ce type
d'imbroglio,
situation-là très difficile, c'est la volonté de la personne qui doit d'abord primer. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens parce qu'il y a encore très peu de gens. Il y a moins de 1% des Québécois qui ont rempli leur directive médicale anticipée. Donc, on encourage les gens à le faire. C'est très simple. C'est sans frais. Vous pouvez aussi le faire quand vous allez chez votre notaire en même temps que vous faites votre testament puis tout ça. C'est une autre possibilité, mais vous pouvez le faire par vous-même aussi.
Okay. Bon, dernière question là-dessus, c'est que l'un des arguments qui est apporté, c'est que M. Lambert n'est pas en situation de fin de vie, en ce sens que si on n'arrête pas le traitement, il peut survivre encore pendant des années, là.
c'est deux débats différents, en fait, qui semblent vraiment se confondre en France.
Ouais.
Et puis, je pense que tout le débat en France est vraiment pas avancé. Oui, il y a des règles pour une personne qui est en fin de vie, mais il y a toutes les règles générales du consentement aux soins. Vous savez que, par exemple, on vous diagnostique un cancer, on vous propose de vous opérer, mais vos chances, par exemple, de vous en sortir ne sont pas très élevées. Vous avez tout à fait le loisir de dire non à ça. Vous avez le droit de refuser à tout stade de votre vie des traitements. Donc, c'est deux débats séparés. Le débat sur les soins de fin de vie et possiblement l'aide médicale à mourir versus le débat de l'autonomie, du libre choix de la personne ou du tiers, du conjoint qui veut refléter votre libre choix et votre volonté, qu'importe le stade où vous en êtes.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est deux débats complètement différents. Mais en France, de ce que je comprends, la loi qui permet, parce que c'est juste en 2016 en France qu'ils ont comme un peu codifié la possibilité de dire non à des soins, là, que ce soit vraiment clair, ce qui est incroyable parce qu'au Québec, c'est depuis 1990.
Ouais.
C'est moins clair que ça pourrait l'être parce que c'est une loi qui porte sur les personnes en fin de vie, mais ça porte aussi sur les directives anticipées, comme ici notre loi, ce qui fait en sorte qu'évidemment que cette personne-là peut se prévaloir de toutes les questions de directives médicales en fin de vie. Du moins, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de ce que je comprends de dizaines de juges français qui se sont prononcés depuis 2013 sur cette cause-là. Et là, c'est un comité des Nations Unies qui semble avoir un poids, alors qu'il n'a aucun poids décisionnel, mais juste une recommandation qui pourrait être faite.
Madame Yvon, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de votre intérêt. Au revoir.
Au revoir. Véronique Yvon est députée de Joliette. Bien sûr, vous la connaissez. Elle a été à l'origine de cette loi au Québec là, sur les soins de fin de vie.